OK, on va continuer la leçon qu'on avait débutée la semaine dernière qui s'appelait La Providence, méditons sur elle. On avait vu que c'est notre devoir, selon les Écritures, de méditer sur les événements de la Providence. Et juste pour un petit rappel, la Providence dans nos vies, c'est simplement l'ensemble des circonstances que le Seigneur permet qu'on vit à tous les jours. On avait regardé la semaine dernière notre devoir de méditer parce que on avait vu que Dieu lui-même le commande, de reviser les choses qu'il nous a envoyées dans le passé, de voir sa main à l'intérieur de toutes ces choses-là. On avait aussi regardé la semaine dernière que l'idée que négliger de le faire, c'est un péché. Parce que le Seigneur, quand le Seigneur nous demande quelque chose et on ne le fait pas, on est en désobéissance. La troisième raison, on avait vu parce que l'absence de méditer sur la providence, ça implique des conséquences. La première, c'est que l'absence de méditation prive Dieu de la louange qui lui est due. Si on se met à regarder toutes les circonstances de notre passé, puis on voit comment Dieu a intercédé, c'est-à-dire est intervenu dans nos vies, bien sûr, ça devrait nous amener à louer le Seigneur. Et si on ne médite pas, on ne loue pas. Et vu que les louanges lui sont dues, quand on ne les fait pas, on est en... Et on avait vu aussi que son absence, l'absence de méditation, nourrit l'ingratitude envers les bontés de Dieu. On sait qu'on est bien capable de ça. Hein? Et aussi son absence offense Dieu quand il s'approche de nous. Le deuxième point, on avait commencé, comment méditer? On avait regardé, premièrement, quelle doit être la qualité que devrait avoir notre méditation. La première qualification, ce serait l'extensivement, de le faire extensivement. Ça veut dire extensivement, ça veut dire d'essayer de reculer le plus loin possible dans notre passé, même dans notre enfance, et méditer sur les choses que le Seigneur a fait dans nos vies tout au long de notre vie. Même avant la vie chrétienne, le Seigneur avait déjà un œil sur nous, faisait déjà des choses pour nous. Donc, on a besoin de réviser les choses de plus loin possible. Alors, j'avais parlé la semaine dernière du puritain John Flavel qui écrit « The Mystery of Providence » qui avait dit « Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas sur Terre une histoire plus intéressante et plus agréable que celle de votre propre vie. » Parce que si on était chrétien, on sait que Dieu est intervenu depuis qu'on est au monde. Alors, on avait vu aussi non seulement extensivement, donc le plus longtemps possible dans le temps, mais aussi intensivement. On se doit d'éviter d'être superficiel. Maintenant, on a commencé à regarder les choses sur lesquelles on se doit de méditer. On se doit de méditer sur l'opportunité des circonstances que le Seigneur permet. L'opportunité, ça veut dire qu'il les envoie au bon moment. Alors, on se doit de regarder nos vies et de regarder et envoyer telle chose, vraiment, c'est à le bon moment. Et il fait toujours ça, dans les Écritures. Et regarder aussi comment le Seigneur adapte ses interventions à notre caractère, à notre expérience, à notre connaissance. C'est vraiment une intervention personnelle. Il nous connaît personnellement. Il interviendra pas nécessairement de la même façon avec un qu'avec l'autre. Aussi, on avait regardé que les instruments que Dieu utilise, on se doit de regarder les instruments que Dieu utilise. Par exemple, on avait vu que Jonathan avait protégé David dans l'histoire. On avait vu également la méchanceté des frères de Joseph, même s'il avait fait les choses dans le but de nuire à Joseph, que Dieu s'était servi de la méchanceté des méchants pour en arriver à faire sortir quelque chose de bien de ça. Et on se doit aussi de regarder l'intention de Dieu et la portée que les circonstances que Dieu nous envoie dans nos vies. On l'a répété quasiment à des milliers de fois, le fameux verset Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans le grec, c'est « toute chose travaille ensemble ». Donc, les circonstances, c'est comme si ce serait un tricot. Le Seigneur se sert de toutes ces choses-là, dans le fond, pour nous amener à ressembler davantage à Jésus-Christ. Alors, ça, toute chose devrait. Alors, on était rendu là. Et on était regardé aussi que le Seigneur, on se doit de regarder les circonstances que le Seigneur envoie dans nos vies, avec nos prières, par exemple. Le Seigneur, la prière honore la providence et la providence honore la prière. On dirait que c'est deux choses qui vont en même temps. Par exemple, dans Genèse 24, versets 42-45, le serviteur d'Abraham qui avait été chercher l'épouse d'Isaac, on voit vraiment une belle illustration de ce que c'est la providence. Parce que ça dit, « Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, « Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé, et je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Et on sait que le Seigneur s'est servi, lui a prié le Seigneur, il dit, « Celle qui va faire ça, là, ça va être la femme pour Isaac. » Puis elle arrive, puis elle fait exactement ce qu'il lui a demandé. Donc, la providence, c'est que Dieu dirige les circonstances pour démontrer que c'était celle-là que le Seigneur voulait. Ensuite, dans Daniel 9, au verset 19 à 22, ça dit, « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans la prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, et il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Voyez-vous, la circonstance, c'est qu'il prie l'Éternel et Dieu envoie un ange pour lui parler. Acte 12, versets 11 à 16. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rod s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Quelle belle histoire. Le Seigneur nous montre que des fois, même dans nos prières, on demande des choses, on demande la libération de Pierre. Pierre arrive, puis là, elle ne croit pas. Alors, quelque part, c'est des passages qui nous enseignent sur notre façon qu'on est. Donc aussi, le besoin de mettre la méditation de nos circonstances en relation avec les Saintes Écritures. Par exemple, quand les Écritures nous parlent des menaces, des avertissements, des conseils, des promesses de Dieu. Par exemple, Et il dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu ta parole à ton serviteur David, mon père, et de ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. » Oui, le psaume 52, psaume 57, verset 2, dit « Je crierai au Dieu souverain, au Dieu fort, qui accomplit son œuvre pour moi. » Donc, le Seigneur aussi veut nous montrer par la méditation qu'il y a une connexion qui est inévitable entre le péché et l'affliction. Ça, je me souviens, quand on allait dans la rue, des fois, on se mettait une pancarte dans le cou. Les gens passaient sur la rue Saint-Joseph à Québec. Puis quand Lucie se mettait cette pancarte-là, avec ce verset-là dessus, là, elle avait... Je ne sais pas pourquoi, mais ce verset-là, on aurait dit que c'est comme si on aurait... les gens avaient une réaction viscérale à ce verset-là. Et le verset dit simplement ceci. « Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. » Et ça faisait... Je ne sais pas pourquoi, mais ça leur claquait dans le dash, comme on dit. Maintenant, aussi, les relations avec les Écritures, par exemple, le bénéfice de l'épreuve. Quand Dieu envoie une épreuve, il y a toujours un bénéfice qui est rattaché à l'épreuve. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » On a-tu déjà été outragé pour le nom de Christ? Ça ne se peut pas que quelqu'un ait fait de l'évangélisation le moindrement qui n'a pas été outragé pour le nom de Christ. Mais quand on est outragé, notre réaction... c'est d'être malheureux, puis de trouver les inconvertis méchants. Pourtant, c'est pour ça que le Seigneur nous dit de réagir ici. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. On se devrait d'être heureux quand on nous chante des bêtises à cause du nom de Christ. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Aussi parce que, peu importe les circonstances que Dieu nous a faites vivre dans nos vies, personne ne perdra rien à le servir. On parlait tantôt de quelqu'un qui décide, disons qu'il y aurait un gros talent, j'ai vu ça à un moment donné, un homme que j'ai connu qui est devenu missionnaire, un talent musical. D'après moi, il aurait pu faire une carrière dans le piano classique. Il jouait du piano, c'était épouvantable. Mais quelqu'un qui abandonne... quelque chose comme ça avec lequel il aurait pu devenir célèbre ou il aurait pu devenir gagner bien sa vie, puis tout ça. Mais quand tu choisis le Seigneur, tu choisis le meilleur, ça c'est certain. On ne perd jamais rien à servir le Seigneur, peu importe ce qu'on abandonne. Jésus répondit, voici je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voyez-vous, il dit non seulement on ne perd pas, mais même, il dit dans le siècle présent, ce que tu as cru perdre, là, maison, frère, sœur, etc., il dit, tu vas en avoir au centuple sur cette terre comme serviteur chrétien. C'est à réfléchir. Aussi que Dieu promet de ne jamais nous abandonner. Quel beau verset que de se rappeler cela. Parce que des fois, je prends l'exemple de la personne que je vous ai parlé tantôt qui vit... sur une petite île isolée, sa femme est dépressive, il fait 2 ans, il souffre énormément. Alors la tentation, Satan te souffle continuellement à l'esprit, à l'oreille, ben voyons donc, ton Dieu là, il t'a abandonné. Alors c'est sûr que la tentation est grande, mais il y a des versets qui sont là pour nous rappeler que Dieu dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors dans le Hébreux chapitre 13 verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Aussi, le fait que la parole de Dieu est notre meilleur consolateur. Psaume 119, verset 50 et verset 92. « C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » verset 92, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Alors, une parole de Dieu fait plus pour une âme en détresse que 10 000 mots de consolation humaine. Ça, je pense que, justement, quand on cherche à aider des personnes, souvent, on s'assied avec les paroles, on s'assied avec les paroles humaines, hein, c'est un peu normal. Mais d'un autre côté, la parole de Dieu est énormément, infiniment plus puissante pour consoler que quelques paroles humaines que ce soit. Alors, peut-être c'est une bonne idée, quand on parle avec quelqu'un de dépressif, de lire des passages des Écritures, surtout des passages, comme on a parlé récemment, les psaumes 145 à 150, qui sont des psaumes de louange. Et tu fais lire la personne la louange. Et souvent, ça a un effet sur l'âme. Il ne faut pas croire que ça n'a pas un effet sur une âme de personne régénérée. Et autre chose, c'est que la vision de la main de Dieu, quand on médite, il faut voir la main de Dieu dans nos circonstances. Amos, chapitre 3, verset 6. « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Hey, c'est à méditer, ça. « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Ça veut dire que les circonstances qui nous paraissent des drames épouvantables, la parole dit que c'est Dieu qui en est l'auteur. Lamentation, chapitre 3, verset 37. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? » Ordonné, ça veut dire que c'est lui qui l'a décidé. Alors, qui dira qu'une chose arrive? Il ne dit pas ici de la nature de la chose. Qui dira qu'une chose, en général, arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? T'as médité. C'est le Seigneur qui détermine nos afflictions, leur genre, leur durée, leur degré, leur support et leur résultat. Alors, quelque part, si on se mettait à méditer toutes les choses que le Seigneur nous a envoyées, qui nous ont fait souffrir dans nos vies, qu'on considérait comme des épreuves, des afflictions, à quelque part, si le Seigneur détermine le genre, la durée, le degré, le support et le résultat, à quelque part, c'est que tout ça s'est fait avec une grande sagesse et avec une grande intelligence. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien de ce qui sera après lui. » Voyez-vous, à un moment donné, quelqu'un peut traverser des périodes de dépression, puis après, il peut connaître une période de 10 ans là, qu'il va vivre dans le bonheur complet. Alors, bien souvent, les personnes qui ont vécu des graves dépressions vont reconnaître que que le moment où ils ont été dans la dépression, ça a été pour eux des moments d'approfondissement de leur foi ou des choses comme ça. Alors, troisième point qu'on va regarder, c'est des considérations pour bien méditer la providence. Alors, le peuple de Dieu n'a pas besoin d'être insatisfait des providences de Dieu. Pour éviter l'attitude d'être insatisfait de nos providences, on se devrait de considérer les choses suivantes. Nos privilèges et nos miséricordes. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Aussi, autre chose à considérer, c'est la gravité de nos péchés. Nous devons nous rappeler que tout péché que nous commettons est assez grave pour mériter l'enfer éternel. Si on s'arrête à penser à ça, là, on commet des péchés même comme chrétiens, mais même le plus petit d'entre eux nous mériterait encore une fois d'aller en enfer éternel. Ça devrait nous faire réfléchir sur la miséricorde de Dieu, sur le pardon de Dieu, sur l'amour de Dieu. Même si nous sommes sauvés, nous devons garder cette pensée présente dans nos vies. Autre considération, la proximité de notre destination est finale. Plus on vieillit, plus on sait qu'on est proche de la destination finale. Alors, avec part Romains chapitre 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Moi, quand j'ai cru, j'avais 33 ans. Là, j'ai 71. Ça veut dire que j'en ai un bout en arrière. Puis le petit bout qui me reste en avant, j'ai aucune idée de la longueur qui me reste. Mais quelque part, le fait que je suis plus proche de la sortie, pour moi, ça devrait être une source de joie. Quatrièmement, les dangers de mauvais d'interpréter, de mal interpréter les providences de Dieu. Les délais que Dieu donne dans nos vies, à nos prières, souvent, ce n'est pas des refus, c'est des reportés à plus tard. Voyez-vous, Lamentation, chapitre 3, verset 8 et verset 44. « J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. » Et dans le verset 44, « Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. » Je pense que le Seigneur reçoit toujours les prières, il les entend toujours, mais l'exaucement, des fois, il le reporte à plus tard, pour des raisons que lui seul connaît. Et il ne nous les dit pas. Pourquoi il ne nous exauce pas tout de suite? Maintenant aussi, les miséricordes arrivent parfois lorsque nous ne les attendons plus. Des fois, on pense qu'ils n'y arriveront pas, mais ils vont arriver. Ézéchiel 37, verset 10 à 12. « Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Voyez-vous, eux autres, ils disaient, c'est fini, on est perdu. D'ailleurs, non, je ne sais pas même, ça va se passer selon que moi, ce que j'ai décidé. Alors, et de ne pas oublier aussi que nos péchés nous cachent la face de Dieu. Isaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Autre considération, la curiosité arrogante et le jugement de censure. Job 42, verset 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Job 42, c'est à la fin. Il y a eu toutes ces épreuves. Ses amis sont venus, puis au lieu de l'encourager, ils l'ont presque découragé. Et là, on est à la fin du chapitre 42, où le Seigneur parle à Job dans le but de l'humilier. Il lui pose toutes sortes de questions. Où étais-tu quand j'ai fait ci? Où étais-tu quand j'ai fait ça? Et là, à un moment donné, là, Job a retrouvé un petit peu son bon sens. Alors, le Seigneur lui pose la question suivante. « Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Il faut accepter que dans notre vie, on ne comprendra pas toujours pourquoi le Seigneur fait les choses. Il faut l'accepter par la foi. Puis si quelqu'un dit, « Ben moi, si je ne comprends pas, là... » Aujourd'hui, les gens sont rendus comme ça, souvent, ils pensent que le Seigneur leur doit des comptes. Le Seigneur dit qu'il ne rend de compte à personne. Il fait ce qu'il croit... Il doit être fait, il fait avec sagesse, il fait avec intelligence, il fait avec miséricorde, et il ne rend pas de compte à personne. On ne peut pas toujours comprendre pourquoi le Seigneur fait les choses dans nos vies. Et il y a aussi la tentation de vouloir sortir des épreuves et de nos afflictions par des moyens de péché. Ésaïe, chapitre 30, versets 15 à 17. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5. Vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez. Comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Et vous, le Seigneur veut leur faire comprendre que Parfois, même cinq personnes pourraient toutes détruire une armée innombrable, nombreuse. Puis même si eux autres étaient bien nombreux, puis que les ennemis étaient peu nombreux, ils pourraient les laisser gagner. Il veut leur faire comprendre que dans le fond, le Seigneur est toujours au contrôle de toutes choses. Même se battre, un peu comme Goliath, Goliath et David. Ils se prenaient contre un géant. D'autres exemples des Écritures où on voit qu'il y avait des immenses armées et le Seigneur permet que les armées sont détruites. Il dit, regardez ce que je vais faire. Il est détruit à un moment donné, un endroit dans les Écritures, 185 000 hommes qui sont détruits d'un coup sec. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de cette brève étude? La première application, obéissons au commandement de Dieu de méditer sur ses providences. Est-ce qu'on a médité cette semaine? On a vu une leçon la semaine passée. On a dit que c'était notre devoir. On a dit que Dieu nous le commandait. On l'a-tu fait? Alors, l'application d'un texte, quand Dieu nous parle, puis qu'on n'applique pas ce qu'il nous demande, on n'avance pas vite. Négliger de le faire, de méditer sur nos providences est un péché. L'absence de méditation, comme on a dit, prive Dieu de louange. Offense Dieu quand il s'approche de nous et nourrit l'ingratitude. Nous ne pouvons pas non plus puiser dans le registre de ses miséricordes passées lorsque nous sommes dans le trouble pour en invoquer de nouvelles. Deuxième application, pratiquons cette méditation de façon profonde, extensivement et intensivement. Considérons notre méditation, dans notre méditation, les facteurs suivants. Leur opportunité, leur adaptation personnelle, les instruments que Dieu utilise, leur intentionnalité et leur relation avec nos prières. Faisons le lien avec la réalité des menaces, des avertissements, des conseils et des promesses des Saintes Écritures. Voyons toujours la main du Seigneur dans nos circonstances. Il en est l'auteur et l'ordonnateur. Troisièmement, évitons des erreurs dans notre méditation. Par exemple, celle d'oublier les miséricordes reçues dans le passé. Celle de ne pas considérer les providences comme des grâces, malgré la gravité de notre péché, et de ne pas garder à l'esprit la proximité de la destination finale. Ne jugeons pas les délais d'exaucement de nos prières comme des refus. N'oublions pas que les miséricordes arrivent parfois alors que nous ne les attendons plus. N'oublions pas non plus que ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Ne soyons pas arrogants en voulant censurer Dieu dans ses voies. Ne prenons jamais de moyens de péché pour nous sortir de nos épreuves. Que nos providences soient méditées pour en glorifier l'auteur et l'ordonnateur. Amen.